Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane. Et ne pas se la raconter, c'est vraiment la marque de fabrique de Stéphane Bern, un animateur star qui, malgré un emploi du temps surchargé, se plie en quatre pour satisfaire toutes les sollicitations, comme il me le racontait hier en antenne.
Je fais une masterclass chez Mathieu Gallet.
C'est un truc sur le patrimoine avec des étudiants.
Ah oui, mais ça tu le fais les yeux fermés.
J'espère, parce que j'ai rien préparé.
Oh mon crépus, vous avez quelque chose à préparer, vous êtes quand même Stéphane Bern. Ça s'est bien passé, Stéphane?
Ouais, super, mais ils ont été...
Ils ont été passionnants.
Non, mais c'est passionnant.
Ah, c'est vous qui avez été passionnant?
Non, c'était passionnant, les questions étaient passionnantes. Les réponses, nous verrons, mais...
Il faut
rester humble.
Mais oui, mais c'est ce que vous faites le mieux. Oui. Aujourd'hui, Stéphane, on réunit trois personnages qui, comme vous, avant votre exode rural, bien sûr, ont vécu la vie parisienne.
Oui. C'est le point commun de nos personnages cet après-midi. Ils mènent la vie parisienne. À commencer par celui que l'on entend. Le compositeur Jacques Offenbach qui a mené la vie parisienne et qu'il a imaginé et mis en scène surtout dans un opéra bouffe, comme on disait. Restez dans l'histoire, vous verrez. Puis je vous raconte Maurice Chevalier.
Avec la Spalès ?
Non Mathieu, Maurice Chevalier, qui n'a jamais cessé d'être durant sa vie le gamin de Paris. Une vedette du musical, une star de cinéma, qui a rayonné bien au-delà de Paris aussi. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait, à 99% vrai, d'un personnage plus proche de nous qui mène lui aussi la vie parisienne.
Oui, Neymar Stéphane. Le célèbre footballeur du PSG qui, comme il est souvent blessé, a beaucoup de temps pour profiter de la vie parisienne et surtout de la nuit parisienne. Et avec nous, comme chaque jour en studio, la fine fleur du journalisme français, je n'ai pas peur de le dire, à commencer par celle dont la plume impitoyable et la mémoire douteuse font parfois des victimes, la tueuse d'Aldo Machone, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Toujours vivant,
hein? Ah oui? Non, il est mort.
Quoi?
Mais non, il est mort.
Mais non, il est vivant.
Il est mort, il y a quelques années.
Aldo Machone? Je vous jure qu'il est vivant.
Non, il est mort.
Non, Aldo Machone n'est pas mort.
Vous savez qui on confond? Peut-être c'est celui qui jouait Salomon dans Rabbi Jacob, non?
C'est pas ça. Clémentine, quand vous ne confondez pas Aldo Machone avec Henri Guibert, dont on salue la mémoire,
oui.
Je parle d'Henri Guibert, hein. Vous nous entraînez dans l'intimité des grands de ce monde.
Ah oui, là, tout est relatif. Alors, à votre avis, quelle est la catégorie de Parisiens qui profitent le plus de la vie parisienne? Des fêtards qui ne peuvent se passer d'être en groupe et festoient nuit et jour.
Les élus de...
Non, écoutez, non, cherchez pas. Ce sont les rats, bien sûr.
Les petits rats de l'opéra?
Les rats tout court. Et jusque dans les années 30, eh bien, on ne les fuyait pas, on se pressait pour en voir au ratodrome de Monsieur Gustave, dont je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure.
Venez dans mon quartier, vous en verrez plein, il n'y a pas besoin d'aller au ratodrome.
Ah oui, vraiment?
Oui, il y a plein de petits raisins, une petite rue là. Effectivement, il y a beaucoup de rats, j'en croise chaque fois que je rentre par ce petit passage. C'est terrible, parce qu'il y a les poubelles des restaurants. C'est dans le 10e, venez visiter, c'est trop sympa.
Très bien. Avec nous, David Castel-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention qui existe toujours aujourd'hui.
Qui est la Légion d'honneur. Peut-être je vous passerai la parole un moment, Stéphane, puisque vous êtes le seul.
Mais vous n'avez pas, vous n'arborez pas votre petit pins de la Légion d'honneur. Ouais. Dommage.
Ouais. J'ai pas de veste non plus.
Oh.
Et puis, avec nous, Olivier Pouls, pour remonter aux origines d'un plat, d'un mets,
typiquement
d'une recette
parisien.
Typiquement
parisien. Ça accompagne parfaitement la vie et la gastronomie parisienne. C'est le croque-monsieur, né à Paris.
Ah oui. Mais c'est, vous dites croque-monsieur à la parisienne. Il y a différentes façons de faire le croque-monsieur.
Oh, la manière traditionnelle, puisqu'il est né à Paris, c'est effectivement... Mais je vous dis, effectivement, il a beaucoup évolué, le croque-monsieur, je vous raconterai ça. Et en fait, il est né à Paris, mais l'idée de toaster du pain n'est pas forcément parisienne.
Une chronique un peu inédite, hein. Je n'ai jamais entendu parler de l'histoire du croque-monsieur dans votre bouche, Olivier Pouls.
Ah bon, vous êtes sûr?
Ça fait trop longtemps qu'on bosse ensemble, peut-être. Enfin, qui décrochera le pompon dans Bern to be Alive?
Ça peut être comment?
Ne soyez pas si sûr de vous, Stéphane. Quand elle ne confond pas Henri Guibert avec de Machone, elle peut être redoutable, nous verrons ça aux alentours de 5h moins le quart. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant.
Si elle ne l'était pas, lui l'était, parisien et dans le vent, comme Stéphane Bern il y a encore quelques semaines. Stéphane qui nous raconte celui qui a mené la vie parisienne et l'a même imaginé et composé sur scène, Jacques Offenbach.
Nous sommes fin octobre 1866. Il y a foule au théâtre du Palais Royal. Le Tout Paris est venu assister à La Vie parisienne, dernière opérette montée par Jacques Offenbach. À Paris, nous arrivons en masse. À Paris, nous nous précipitons. À Paris, il faut nous faire place, clame la joyeuse troupe. Sur scène, les personnages hauts en couleur défilent. Barons danois, bottiers allemands, sans oublier ce riche brésilien venu à Paris pour dilapider son or, en, je le cite, galantes ivresses. Les acteurs enchaînent les calembours et chantent. La musique s'envole à un rythme effréné. Les jupons froufroutants des actrices virevoltent en une danse qu'on appellera plus tard le French Cancan. La pièce est un triomphe et La Vie parisienne de Jacques Offenbach sera jouée plus de 200 fois jusqu'à l'été 1867. Il faut dire que le compositeur sait comme personne dépeindre la légèreté et la frénésie de Paris sous le Second Empire. Jacob Eberst, de son vrai nom, grandit à Cologne où il est né en juin 1819 dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, son père qui chante, joue et compose à la synagogue lui enseigne les rudiments du violon. Lui préfère vite le violoncelle. Éblouis par le talent de leur fils, les parents l'envoient étudier à Paris. Et voilà Jacob, désormais installé dans une maison de la rue des Martyrs, un quartier parisien au pied de la butte Montmartre, auquel, en dépit de nombreux voyages, il restera fidèle tout au long de sa vie. À 14 ans à peine, grâce à son don exceptionnel pour l'instrument qu'il s'est choisi, Offenbach est admis au conservatoire. Très vite, Jacob, qui francise son prénom en Jacques, s'ennuie dans cette école qu'il juge poussiéreuse. L'inspiration est dehors, dans les rues vibrantes de Paris, sur le boulevard du Temple, par exemple, où se succèdent plusieurs salles de théâtre, des cafés et une foire. Hommes squelettes à valeur de sabre, puces savantes et chiens acrobates ravissent l'imagination du jeune homme plus que jamais fasciné par Paris. Offenbach intègre l'orchestre de l'Opéra Comique comme musicien, avant de démissionner quelques mois plus tard. Dépourvu de salaire, il parvient à s'immiscer dans les salons du gratin parisien. Il faut imaginer le luxe extraordinaire déployé par la bourgeoisie de ce début du 19e siècle. Financiers, agents de change et commerçants rivalisent dans leurs dépenses. Les demeures sont ornées de meubles précieux et les murs couverts de dorures. La mode est aux animaux de compagnie dans un canapé valant une petite fortune. Il n'est pas rare qu'un bichon soit blotti ou qu'une tortue exotique et donc hors de prix s'y cache. Dans ce luxueux contexte, Jacques Offenbach gagne sa vie en se produisant lors de concerts et soirées musicales. Un soir, il est convié chez une certaine Madame Mitchell. Invité à montrer ses talents, il s'installe alors au piano, chante, puis raconte quelques anecdotes du conservatoire, de ses farces dans l'orchestre de l'Opéra Comique, de ses concerts. La fille de l'hôte, Herminie d'Alquin, tombe sous le charme de l'artiste à la longue silhouette dégingandée et au regard pétillant derrière son monocle. Jacques Offenbach n'est pas insensible non plus, mais la famille pose deux conditions à un éventuel mariage. Oui, on ne perd pas de temps.
Oui, ça va très vite.
Le jeune homme qui est juif devra se convertir au catholicisme et confirmer sa capacité à vivre de son art. Qu'à cela ne tienne, le violoncelliste part en tournée en Angleterre et joue devant la reine Victoria, le roi de Bavière et le tsar de Russie. Marié en août 1844, Jacques Offenbach et Herminie d'Alquin auront 5 enfants. Dévouée, Herminie met tout en œuvre pour préserver la sérénité de son époux qui, tout en fréquentant les salons, veut désormais se consacrer à la composition théâtrale. Ça tombe bien. Après un détour par Cologne, le directeur de la Comédie-Française lui offre les rênes de l'orchestre de cette illustre institution. « Je suis resté 5 années au théâtre français », raconte Offenbach. « C'est à cette époque que l'idée me vint de fonder moi-même un théâtre de musique. » Paris est alors en pleine transformation. L'empereur Napoléon III, qui règne sur la France et le Second Empire, a confié au préfet Eugène Haussmann le soin de mener une série de grands travaux pour moderniser Paris. Certains faubourgs sont entièrement détruits, d'autres sont redessinés et de grands axes sont créés. Offenbach établit son théâtre en bas des Champs-Élysées, dans un local qu'il transforme en luxueuse bonbonnière. Le 5 juillet 1855 s'ouvrent les Bouffes parisiens, où Offenbach prévoit d'attirer la bourgeoisie et la noblesse fortunée, avide de plaisir et de fêtes, avec des opéras comiques. En seulement 2 mois d'existence, les Bouffes parisiens deviennent l'un des hauts lieux de la vie théâtrale de Paris. Compositeur, Offenbach cumule aussi les postes de directeur financier, chef d'orchestre et metteur en scène de tous les spectacles. Aux Bouffes, il produit non seulement ses propres œuvres, mais programme aussi celles de ses contemporains. Jacques Offenbach n'hésite jamais à aider ses amis compositeurs dans le besoin, espérant bien sûr qu'on lui rendra l'appareil. Dans le milieu parisien de l'art et de la culture, il est important d'avoir un réseau. Son appartement devient l'un des lieux les plus courus de la capitale et l'on se damnerait pour être invité au vendredi de Jacques. N'y a-t-on pas fondé la compagnie d'assurance mutuelle contre l'ennui, dont les membres sont décorés de l'ordre du hanneton ? Offenbach est la coqueluche de Paris. Mais ses œuvres ont beau conquérir peu à peu Londres et Berlin, cela ne l'empêche pas de jongler avec de grandes difficultés financières. Jacques Offenbach doit absolument imaginer une œuvre qui lui rapportera un peu d'argent. Il entame l'écriture d'Orphée aux Enfers et bingo, c'est la consécration. Cet opéra bouffe, qui raille l'Olympe dans des décors de Gustave Doré, sera joué 228 fois. Orphée, un miteux violoniste, n'aime plus sa femme, mais soucieux du qu'en dira-t-on, part à sa recherche. Descendant aux enfers, il découvre un Olympe où les dieux se battent comme des chiffonniers et où luxure, plaisir et inconséquence règnent en maître. Tout cela au son de mélodies virevoltantes qui deviennent de vrais tubes. Aujourd'hui encore, le fameux galop infernal clôturant le spectacle est dans toutes les mémoires. Le tout Paris se presse aux opérettes d'Offenbach. Même l'empereur des Français, Napoléon III, qui lui accorde la nationalité française, puis le décor de la Légion d'honneur. Plus français, plus parisien que jamais, Offenbach monte la vie parisienne. Et le succès de sa pièce dépasse ses espérances. Il capte comme personne l'esprit du moment. Sur scène, bruyant, chantant, trépidant et frivole, Paris s'affiche comme la ville de la fête et des plaisirs. Ce qu'elle est en réalité à cette époque-là. Avec ses cafés, ses restaurants des boulevards, les spectacles, les lieux de promenade à la mode comme le Bois de Boulogne, le nouvel hippodrome, jamais, jamais, la capitale n'a été aussi vivante. Quant au théâtre, ils sont le lieu de tous les plaisirs. Pour les metteurs en scène, faire jouer des jolies femmes est une garantie de succès. Les hommes riches et influents viennent en spectateurs choisir leur maîtresse sur les planches. Hortense Schneider, qui triomphe en 1867, dans la Grande Duchesse de Gerolstein, un autre opéra d'Offenbach sera l'une de ces célèbres courtisanes du Second Empire. Celles qu'on appelle des demi-mondaines, qui défraient la chronique par leurs mœurs tapageuses, leur train de vie et leur tableau de chasse impressionnant. Mais la chute de l'Empire et la proclamation de la Troisième République sonnent le glas de cette frivolité. Jacques Offenbach se démode petit à petit, malgré quelques succès tardifs et une tournée aux États-Unis. Le compositeur vieillissant et rongé par la goutte s'attelle à un dernier rêve, la composition d'un opéra, mais sérieux celui-là. Ce sera les Contes d'Hoffmann, mais il ne sera plus là pour en voir la première représentation. Jacques Offenbach meurt en 1880. À l'issue d'obsèques célébrées en grande pompe à l'église de la Madeleine, il est enterré au cimetière de Montmartre après un dernier tour en corbillard dans les rues de Paris, sa ville chérie qu'il a aimée et qui le lui a bien rendu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jacques Offenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien et compositeur lui aussi qui le remet justement sur le devant de la scène. Bonjour Dimitri Casali.
Bonjour.
Bonjour Dimitri Casali, vous avez notamment publié « Ce que la France doit aux Français venus d'ailleurs » aux éditions First. Jacques Offenbach en est un, Français venu d'ailleurs, vous le racontez. En jeune prodige de la musique, Offenbach est envoyé à Paris. C'est là où il faut être pour devenir un musicien qui a du succès à l'époque ?
Absolument. Paris, c'est la ville lumière déjà. C'est la ville que le monde entier nous envie grâce justement à Napoléon III, à Haussmann. C'est une véritable prospérité économique. C'est le décollage industriel de la France. Et donc, cette prospérité entraîne une inventivité, une créativité artistique absolument remarquable. Tous les artistes viennent à Paris parce que c'est là où tout se passe. C'est la ville de tous les possibles. spectacle.
Et qu'est-ce que la France, et Paris en particulier, lui apporte à Offenbach? Le goût de la fête, notamment?
Non, le goût de la liberté. C'est important de comprendre que grâce voilà, à la Révolution et l'Empire, ensuite, c'est vrai qu'un souffle de liberté souffle en particulier à Paris. On peut pas créer, inventer ailleurs qu'à Paris. C'est vraiment une ville magnifique déjà architecturalement. Hein, on va voir les grandes révolutions haussmanniennes grâce à Napoléon III. Il faut le rappeler. Mais surtout, tous les artistes ont cette joie de vivre, cette liberté, cette énergie, cet enthousiasme. Et pour Offenbach, ce qui est incroyable, c'est une fosse insoutenable. Science, en fait, on va y venir, on va parler de ces œuvres, mais c'est vraiment des œuvres qui donnent de l'énergie, de la joie de vivre, une envie d'inventer, d'entreprendre. On sent que le sens de l'entreprise industrielle rejoint le sens de la créativité artistique.
Mais et pourquoi est-ce que Offenbach choisit-il de faire rire alors que les opéras à l'époque sont plutôt sombres? C'était aussi novateur.
Bah, c'est là où il est un véritable révolutionnaire parce qu'il invente un nouveau genre. Hein. L'opéra bouffe, c'est vraiment, il révolutionne, il a compris et c'est aussi, voilà, là je m'inspire aussi d'Offenbach à ce niveau-là. Je pense que c'est par la joie de vivre, Paris, donc c'est la capitale de la joie de vivre, la joie, l'énergie, l'enthousiasme, les valeurs positives que l'on peut justement susciter la curiosité. Et Offenbach, c'est pareil, c'est absolument ça. Il a compris que l'opéra un peu trop savant, comme on disait alors, la musique classique trop pompeuse était condamnée aussi à ennuyer le plus large éventail populaire. C'est ça, c'est cette volonté de populariser la musique auprès du peuple aussi, et pas seulement des élites. On en revient toujours au combat entre la musique populaire et la musique élitiste.
Et alors pourquoi on dit l'opéra bouffe? C'est parce qu'on pouvait y manger aussi?
Non, justement, il s'inspire de l'opéra buffa, du terme italien qui veut dire bouffon. Et c'est là où il est vraiment formidable, parce qu'il a compris qu'en fait, derrière cette fausse insouciance, c'est pas vraiment l'insouciance. Il y a une satire terrible de la société, des différentes classes populaires, les femmes, bien sûr, sa préoccupation majeure. C'est vraiment formidable. C'est pour ça qu'il est indémodable. Et c'est pour ça qu'il va avoir un succès planétaire.
Alors, Dimitri, vous faites revivre Offenbach et beaucoup d'autres sur scène dans Historoc, l'histoire de France, le premier spectacle musical qui raconte notre histoire.
Ça c'est Paris, ça c'est Paris, ça c'est Paris, Paris.
Paris, Napoléon III, extrait de votre opéra qu'on pourra découvrir le 2 février prochain sur la scène du théâtre de l'Alhambra à Paris. Une partie de votre opéra est donc dédiée à Offenbach. En quoi il vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer de lui sur scène?
Offenbach, comme je disais tout à l'heure, c'est un grand novateur. C'est-à-dire qu'il a compris avec l'opéra bouffe qu'il fallait inventer des mélodies efficaces, courtes, avec des standards assez court, alors que la musique classique et savante dont je vous parlais vraiment des heures, son pire ennemi, c'est Wagner qui peuvent pas se supporter. Et Wagner, c'est vrai que c'est barbant, excusez-moi. Alors que lui, il a compris qu'il fallait des mélodies courtes, efficaces.
Et il est l'inventeur de la pop musique finalement.
C'est effectivement le précurseur de la pop musique justement, et on le voit avec son succès dont je parlais tout à l'heure de ces élites. C'est pas une musique réservée aux élites justement, c'est pour la musique la plus populaire possible, pour toutes les classes sociales possibles et imaginables.
On le voit d'ailleurs avec le galop infernal.
Voilà.
Parce que c'est devenu un symbole de Paris, du French Cancan, le Moulin Rouge, enfin c'est repris partout. Quoi.
C'est ça qui est fondamental, c'est moi que j'ai voulu même rappeler dans mon livre, c'est comment ce petit juif né à Cologne, qui arrive à 14 ans à Paris et qui va galérer, hein, il faut quand même replacer, il faut pas croire que tout lui tombe, même s'il est un virtuose, hein, il est d'un talent mais inouï, et ben il va réussir à inventer ce qui est devenu le French Cancan aujourd'hui, c'est-à-dire la vitrine officielle de la France à l'étranger. Que vous alliez à Las Vegas, que vous alliez à Tokyo, eh ben la vitrine musicale et l'imagerie populaire, c'est le French Cancan, et c'est Jacob Offenbach qui l'a inventé. C'est ça, il faut comprendre que justement la France a toujours été un pays ouvert, et grâce à ces immigrés, ça a permis un rayonnement absolument incommensurable.
Stéphane le disait, Napoléon III vient assister lui-même au spectacle d'Offenbach. Ils étaient proches tous les deux. Qu'est-ce qui les rapprochait?
En fait, c'est le duc de Morny. Le duc de Morny, donc le demi-frère de Napoléon III, est le grand protecteur d'Offenbach. Là, on peut dire qu'ils étaient vraiment très amis. Et il a même, d'ailleurs, le duc de Morny a même écrit un livret d'opéra, Monsieur de Champfleury. Mmh. Personne ne sait, mais c'est vrai qu'ils avaient tous les talents. Mmh. C'est ça qu'il faut quand même réexpliquer que le Second Empire, c'est cette période, alors, euphorique, joyeuse, de la fête impériale. Ça, c'est Paris qui va rester dans le monde entier. Mais derrière, il y a des gens talentueux, géniaux, travailleurs. Offenbach, c'est un bosseur fou. Il n'arrête jamais de travailler. Et grâce justement à ses protections, pareil, le duc de Morny a un talent fou. C'est un homme extrêmement brillantissime. Et c'est lui qui va le présenter à son demi-frère Napoléon III. Et Napoléon III va devenir fan, le grand fan d'Offenbach. C'est-à-dire qu'il ne rate jamais un de ses opéras. Il va pratiquement à toutes les premières. Et c'est vrai que sa protection a été décisive parce que c'est lui qui va lui obtenir la nationalité française en 1860. Il va devenir français. Parce que l'administration était déjà tatillonne, et on sent cet amour de la France dans l'œuvre d'Offenbach, parce que il a envie de remercier la France de l'avoir si bien accueilli, d'en avoir fait un succès, même si après, ça va se gâter.
Mais vous le montrez aussi très bien dans votre livre, Dimitri Casali, il a payé Offenbach ce lien d'affection ou d'amitié avec Napoléon III, parce que, évidemment, durant la Troisième République, écrivez-vous, ces opéras sont critiqués pour être l'expression de la superficialité du clinquant du régime de Napoléon III. Alors, si on les redécouvre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi autre chose, il n'y a pas que du clinquant et du superficiel.
Bien sûr, ce que je vous disais, c'est de la fausse insouciance, c'est extrêmement malin, intelligent, bien écrit, il y a cette critique acerbe de la société, même parfois, il n'hésite pas de critiquer l'empereur, dans Jupiter, dans Orphée aux Enfers, c'est une critique de Napoléon III, mais c'est le Napoléon III et le duc de Morny sont suffisamment intelligents pour comprendre justement que c'était une nécessité de critiquer pour avoir une vision objective. Et enfin, et surtout, ça va permettre à tous ces co-religionnaires, que l'entourage juif de l'empereur est extrêmement puissant, avec les frères Pereire dans la finance, avec Achille Fould, le milieu juif parisien est extrêmement performant, efficace, que ce soit dans les chemins de fer, dans l'industrie et dans les arts. À Lévy, le grand compositeur, et son fils d'ailleurs, qui va être le librettiste de Jacob Offenbach, sont d'origine israélite. Et c'est vrai que c'est important de montrer qu'ils sont heureux comme un juif en France, dit-on à l'époque. C'est vraiment une époque bénie pour les juifs, et c'est vrai qu'il n'y a aucun antisémitisme à l'époque. Et justement, on y vient avec la Troisième République, la défaite de 70 va cristalliser justement cette haine d'abord des Allemands, mais ensuite Jacob Offenbach parle avec son accent teuton, et ensuite effectivement de la réussite incroyable de tous ces frères Pereire, ces Jacob Offenbach, ces Achille Fould, Adolphe Crémieux, ils ont tous une réussite absolument insupportable pour les républicains que sont Gambetta, Jules Grévy, Jules Ferry, et effectivement ils vont être absolument critiqués, ils vont garder cette mauvaise image pendant jusqu'à aujourd'hui.
Pour revenir, Dimitri, à la personnalité d'Offenbach, on a vu que c'était pas qu'un créateur, c'est aussi un dirigeant, un chef d'entreprise. Dans votre livre, vous évoquez le caractère un peu compliqué du compositeur, il était tyrannique avec ses équipes. C'est quoi la vraie personnalité d'Offenbach ?
Oui, comme tous ces génies, il est pas toujours facile. D'ailleurs, il aide Georges Bizet le premier opéra est donné justement au Bouffe Parisien, le théâtre de Jacob Offenbach commande, et ils vont se fâcher très rapidement parce qu'il a besoin d'être... Il aide les autres, ça c'est sûr, mais après il ne supporte pas l'ingratitude. Il a un caractère extrêmement difficile. Il veut être le meilleur, il veut être incontournable, il veut qu'on lui baise les pieds, si vous préférez. C'est vrai qu'il est génial, mais il a un caractère trop exubérant, trop fantasme. Il est habillé avec des tenues multicolores, il a des vestes jaunes, pétard et tout. Non, il n'y a que l'empereur et le duc de Mordi pour le comprendre. C'est vrai que, par exemple, l'impératrice Eugénie ne supporte pas Jacques Offenbach. Voilà. Et toute la mouvance un peu trop catholique du Second Empire ne supporte pas Jacques Offenbach, même si, justement, il va se convertir au catholicisme pour essayer d'entretenir son réseau. Il est tellement brillant, il a compris qu'il fallait un réseau. Mmh. Et c'est vrai que ces soirées qu'il organise chez lui sont connues du tout Paris.
Son dernier opéra, Les Contes d'Offenbach, se veut un opéra sérieux. Finalement, il aurait aimé être pris au sérieux.
Et oui, c'est ça. On y revient toujours, même aujourd'hui encore. On voit ce fossé entre la musique savante, élitiste et la musique populaire. Et lui, il a fait justement, c'est là où je l'admire tant, la jonction. Et c'est vrai que c'est formidable parce qu'à la fin, il essaie de faire les contes d'Hoffmann, qui est quand même considéré aujourd'hui par le monde entier. Il a Offenbach aujourd'hui est le compositeur le plus joué au monde avec Georges Bizet, Carmen, et effectivement c'est surtout les contes d'Hoffmann que l'on joue à travers le monde. Donc il a quand même réussi son pari, mais par-delà la mort, puisqu'il a été extrêmement critiqué, incompris, d'un seul coup de faire de la musique sérieuse. C'est d'une richesse musicale. Moi j'invite tous les gens, les personnes à écouter Jacques Offenbach, parce que c'est extraordinaire quand même aujourd'hui. Ça n'a pas pris une ride. Voilà, et c'est ce que j'essaie justement de refaire avec mon opéra rock.
Très bien, merci beaucoup Dimitri Casali. Votre spectacle Histo-Rock, l'histoire de France, se tiendra le 2 février sur la scène de l'Alhambra à Paris. Outre Offenbach, c'est toute l'histoire de France que vous revisitez, le général de Gaulle en passant par Jeanne d'Arc, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, avec des rythmes rock, pop, rap, R&B, et l'historien Franck Ferrand en narrateur, ça promet. Et puis votre livre, Ce que la France doit aux Français venus d'ailleurs, aux éditions First. Merci
avec
beaucoup.
Cette très belle citation de Romain Gary qu'il faut rappeler par les temps qui courent, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines.
Magnifique.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'il faudrait voir pour les croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on pouvait vraiment les voir dans Paris. Hein. Vous nous racontez les rats d'un certain Gustave Crouet, réunis dans un ratodrome dans lequel les Parisiens pouvaient venir les voir combattre.
Et il avait un curieux nom, ce monsieur, en fait, parce qu'il s'appelle, c'est imprononçable, il y a un XH Rouet, comme un rouet, R-O-U-E-T, mais devant c'est X et H. Ça sent vraiment l'assistance publique, ce genre de nom, commençant par un X, c'est pas donné à tout le monde. Il est né à Spa, en Belgique, en 1853. Et quand il a 12 ans, ses parents, son père est boulanger, et ses parents quittent la Belgique pour Paris et ouvrent une boulangerie dans le quartier des Batignolles. Comment, Gustave, on vient à se passionner pour les rats? C'est étrange, oui, mais c'est parce que, en réalité, il s'intéresse beaucoup aux chevaux. Il va devenir cocher. Il sera le cocher de différentes personnalités, notamment Gambetta, et puis il sera également cocher de l'inspecteur général des prisons. Or, où les rats pullulent-ils? Les égouts mis à part dans les prisons, mais aussi et surtout dans les écuries. Et n'oublions pas qu'à Paris, à cette époque, il y a des dizaines de milliers de chevaux. Gustave se met donc en tête de devenir éradicateur de rats. Il met au point une mixture pour les attirer, en capturer le plus possible. Et ensuite, il les vend aux cochers. Pourquoi? Parce que les cochers utilisent ces rats pour dresser leurs chiens à tuer des rats. On appelle ces rats des rats. Ratier, des chiens ratiers. Alors Gustave, je ne sais pas comment le prononcer, devient le champion, toute catégorie de la chasse au rat. Le rat, c'est toute sa vie. D'ailleurs, on le reconnaît facilement. Il porte un chapeau en poil de rat. Un jour, il fait même le pari d'en capturer 800 en une nuit. Et c'est un pari réalisé sous haute surveillance. Il y passe la nuit, au petit matin. Il a bien 800 rats, bien vivants, grouillant dans des cages. En 1870, Paris est assiégé et affamé. Gustave vend-il alors du rat au boucher, charcutier et restaurateur parisien? Lui-même a avoué en avoir mangé et avoir trouvé que la chair de rat était assez fine. Mais il prétendait vraiment ne jamais en avoir vendu pour agrémenter des rats miroitants. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sans doute ont mangé du rat, mais avaient peine à se l'avouer eux-mêmes et on avait peine à avouer qu'on en vendait faute de mieux. À Spa, où il a encore de la famille, il existe un ratodrome. C'est vraiment une invention belge. Et donc, monsieur Gustave décide d'en créer un à Paris, près de Chaillot, dans cet espace, vous savez, qu'on appelait autrefois la zone. C'était derrière les fortifs, derrière les anciennes fortifications. Il y organise des combats de chiens contre des rats. Alors, les chiens sont des bergers allemands, danois, fox terriers. Ah oui, bah, c'est un peu le problème. Hein, j'y viendrai. Alors, quel est le principe? On enferme un chien avec 5 ou 6 rats dans une sorte d'enclos, si vous voulez, fait avec des planches en bois.
On fait des paris,
il y a beaucoup de parieurs, oui. Et l'on chronomètre en combien de temps le chien tue ses 5 ou 6 rats. Un ratier moyen peut tuer ses 5 rats en moins d'une minute, et c'est pas beaucoup. Non, c'est pas génial. Hein.
Ah bon?
Les meilleurs ratiers tuent 5 à 6 rats en 10 secondes. Mais c'est rien, si vous voulez. Vous comptez jusqu'à 10, il y a 5 rats. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, ça y est, c'est fait. Allez, hop. Autour du champ de bataille, où en effet, de très nombreux parieurs, monsieur Gustave, pour alimenter son ratodrome, il a en permanence un stock de 200 à 300 rats. Donc, il a cette double casquette, voyez-vous. Il est à la fois chasseur de rats et dresseur de chiens, parce que les propriétaires de chiens lui confient leur animal, qu'il dresse également à chasser des blaireaux et des renards. Il y a une autre épreuve qui est très prisée au ratodrome, c'est qu'on dispose 6 pots de fleurs vides par terre. Et c'est un peu comme un bonneteau du rat, si vous voulez. On dépose les 6 pots par terre et sous l'un d'entre eux, on met un rat. Et le truc, c'est à quelle vitesse le chien, par son seul flair, identifie sous quelle peau se trouve le rat. Et là aussi, bien sûr, on chronomètre tout ça. Alors, l'apothéose du ratodrome de monsieur Gustave, c'est juillet 1907. Il accueille les finales du Ratier Club de France, auquel assistent 300 spectateurs. Après Chaillot, monsieur Gustave déménagera son ratodrome vers Aubervilliers, là, du côté de Saint-Denis. Ça va quand même fonctionner pendant une trentaine d'années. Mais après, apparition de la voiture. Donc, moins de chevaux. Donc, moins de rats à chasser dans les écuries. Alors, monsieur Gustave se diversifie. Il fournit des rats à l'Institut Pasteur. Et puis, quand survient la guerre de 14, il participe à l'effort de guerre. Parce qu'il dresse des chiens qui vont éradiquer les rats dans les tranchées et dans les dépôts d'alimentation destinés aux troupes. Là, il a joué un rôle majeur. Bon. Monsieur Gustave, en 1939, c'est un bienfaiteur de l'humanité, à 86 ans, il est accueilli à l'hospice belge de Courbevoie. Je ne sais pas si l'établissement existe encore, c'est peut-être bien là qu'Olivier-Paul s'y aura passé ses vieux jours. Mais la leçon de cette histoire, Stéphane, et cette fois je m'adresse à vous en particulier, c'est qu'au lieu de fuir Paris, où les rats pullulent plus encore qu'au bon vieux temps du ratodrome de monsieur Gustave, que ne dressez-vous vos teckels à poil dur à tuer 5 ou 6 rats en moins de 10 secondes?
Voilà, Stéphane, la solution.
Et oui, vous rendriez ainsi un signalé service, sinon à la France, du moins à la vie parisienne.
Merci Clémentine, je vais y songer, mais en fait, ils font ça très naturellement, les teckels, vous savez.
Il n'y a pas besoin de les dresser
pour ça. Il voit un rat passer ou une.
Est-ce qu'il vous le rapporte en guise de trophée?
L'autre jour, j'ai eu droit à une petite souris.
Justement, raison de plus pour nous les laisser à Paris.
Ouais.
Pire qu'un combat de rat à présent. Stéphane Bern contre Clémentine. C'est encore plus violent. Il y a encore moins de règles. C'est tout de suite, c'est le quiz.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le moment que vous attendez tous des deux côtés du transistor, si tant est que vous utilisiez encore un transistor pour nous écouter. Devant le quiz, nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, vous comprenez?
Moi perso, je comprends pas.
C'est bien ce que je dis, mais c'est pas grave, avec un peu de chance, tout est possible. Stéphane, jouons à Bern to Biel. La première question nous parle cinéma. Les plus grands ont fait de la pub. Vous-même, Stéphane, vous avez fait de la pub. Mais de grands réalisateurs en ont fait aussi. Scorsese, Spielberg. Et voici ma question. Est-ce que même Georges Méliès a tourné une pub pour une moutarde? La marque, c'était Bordibus. Vrai ou faux? Est-ce que la pub a commencé si tôt?
Je pense, oui. J'ai très envie de dire oui, parce que très tôt, évidemment, les marques se sont intéressées aux cinéastes. Bon, Méliès avait fait aussi des...
Qu'est-ce qu'il avait fait, Méliès?
Mais il a fait toutes sortes de films. Il a tourné, par exemple, un film sur le palais de l'électricité.
Il était curieux. Il s'essayait à tout.
Oui, il s'essayait à tout.
Y compris la pub pour la moutarde.
Écoutez,
C'est le nom de moutarde Bornibus vous dit vraiment quelque chose,
non.
Stéphane, ou
non.
C'est une blague?
Je sais pas. Ça
ah
me
non
dit...
ah, je pensais que vous connaissiez. Non.
Ça fait penser un peu à Bibendum, mais je trouve que Bornibus n'est pas du tout un nom de moutarde. À moi, ça aurait pu être un nom de personnage chez Rabelais qui aurait. Mais ce Bornibus, moi, me paraît très,
oui,
très bizarre.
Ça, c'est peut-être possible.
La moutarde Bornibus. Il y a bien eu la gogoline du docteur Didier.
C'est apprendre ou à laisser, ouais, comme question. Ouais. C'est toute la question. Georges Méliès a tourné une pub pour une moutarde. La marque était Bornibus. Vrai ou faux? Soit tout est faux, soit tout est vrai.
Intuitivement, je dirais vrai.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse de Stéphane Bern. Voilà. En 1900, le célèbre Méliès tourne un court-métrage où l'on voit des clients d'un restaurant se disputer les pots de moutarde de marque Bornibus. Méliès fera ensuite des pubs pour le whisky et une lotion capillaire. Il dira, parmi les différents moyens employés pour la publicité, il est certain que le cinématographe est l'instrument le plus parfait. Il n'avait pas tort.
Mais sur le fait qu'il ait fait de la pub, c'est pas une vraie surprise. C'est le nom de la moutarde.
Mais ça me disait quelque chose,
qui
c'est
m'étonne.
Ça. Vous voyez,
la moutarde, Bornibus.
C'est hier.
Question numéro 2, Clément. Nous aimons assez, dans Historiquement Vôtre, rendre hommage aux Amérindiens du passé. Ainsi, Galvarino a été un valeureux guerrier mapuche du XVIe siècle. Il va combattre l'armée espagnole. Capturé, il se fera amputer des deux mains. Il restera célèbre pour continuer malgré tout le combat quelques mois plus tard en devenant un habile tireur à l'arc avec ses pieds. Vrai ou faux?
Bien sûr, on peut tirer à l'arc avec les pieds. Galvarino, déjà ce nom ne me dit rien du tout. Je crois qu'il était quoi? Il était Inca, Aztèque, quelque chose comme ça. Ça fait un
il
peu.
Était Mapuche.
Il était Mapuche.
Mapuche.
Ça a été dit hein, dans la question.
Oui, Mapuche. Et alors Mapuche, c'est une ethnie spécifique qui porte des noms hispanisants.
Il tire comme un pied.
Galvarino qui tirait à l'arc avec ses pieds. Bon.
Il va falloir accoucher d'une réponse, Clémentine.
Bah, écoutez, je ne sais pas. Je réfléchis, je j'imagine bien la scène, mais il était connu pour... Non.
Vous
non,
dites faux.
Non, je dis faux, non.
Vous avez gagné.
Vous dites faux, mais pas vraiment pour les bonnes raisons, car l'histoire est encore plus incroyable. Il va bien se faire amputer des deux mains, mais ensuite, il va fixer des lames de couteau à ses bras, un peu comme Wolverine, ouais, vous voyez, le X-Men. Ouais, il retournera au combat, où il succombera en héros. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Vous devez très certainement connaître, Stéphane, le cimetière américain de Colville-sur-Mer, dans lequel Vanu est situé au-dessus de la plage d'Omaha Beach. On y trouve le mémorial et sa chapelle, ainsi que des tombes où reposent 9386 personnes, dont 307 inconnus, tous décédés pendant le débarquement. C'est le droit américain qui s'applique au cimetière, vrai ou faux?
Ah non, je crois pas que tous ces cimetières anglais, américains, australiens... ou canadien et un statut d'extraterritorialité.
Moi, je pense que si. Je ne suis pas de votre avis du tout. Je pense que c'est aussi au contraire. Ah. Il bénéficie d'un... C'est une forme... C'est comme le, à Austerlitz, le mémorial, ou comme Sainte-Hélène. Il y a des morceaux de terre qui sont extraterritorialisés. Comme ça, je crois que c'est le cas des cimetières militaires. Sauf qu'ils doivent obéir à des règles assez strictes, notamment en termes de pavoisement. Par exemple, il ne peut pas y avoir de drapeau allemand dans des cimetières militaires allemands sur le territoire français. C'est
beaucoup,
non, mais il y a un certain nombre de règles.
Beaucoup d'informations, Stéphane.
Et je pense que c'est sous juridiction américaine. Il y a un statut particulier lié au cimetière militaire. En tout cas, j'en suis presque sûr.
Est-ce le droit américain qui s'applique au cimetière de Colville-sur-Mer? Faut-il faire confiance à ses ennemis? C'est la question.
Si je vous ai fait perdre, Stéphane.
C'est la question du jour. Stéphane, vous répondez.
Dans quel domaine? Dans tous les domaines.
Si vous m'assassinez dans le cimetière de Colville-sur-Mer, est-ce que c'est la common law ou est-ce que c'est le droit français qui s'applique?
Non.
Je dis non.
Donc ce n'est pas le droit américain qui s'applique dans le cimetière.
Vous avez gagné.
In extremis, sinon j'étais obligé d'enlever un point pour mauvaise indication à votre adversaire. Faux, le cimetière est juridiquement une concession perpétuelle de la France aux États-Unis, mais il n'y a pas d'extraterritorialité. Les Américains sont propriétaires, mais c'est le droit français qui s'applique.
D'accord.
N'allons pas
mais
trop loin,
Clément. C'est comme c'est le même statut. Non, c'est pas le même statut qu'une ambassade.
Mais non.
Mais c'est quand même la propriété perpétuelle de l'État.
Oui, mais il n'y a pas d'extraterritorialité.
D'accord, ça d'accord. Mais il y a un statut particulier du cimetière étranger en terre.
Mon conseil, concentrez-vous sur votre question.
Bon,
question maritime.
Toutes les questions m'intéressent.
Évoquons Surcouf. Je parle non pas du marin, mal loin, mais d'un croiseur sous-marin français qui a été coulé en février 1942. Il fut le plus grand sous-marin militaire du monde à son époque. Eh bien, petite particularité, il contenait, à l'intérieur de ce sous-marin, un autre authentique sous-marin. Vrai ou faux?
Le sous-marin, vrai.
il devait contenir des torpilles, c'est sûr. Et après tout, Fulton a bien imaginé un sous-marin sous le Premier Empire. Il pouvait y avoir un petit sous-marin à l'intérieur d'un gros sous-marin. Sinon,
quel oui, comme dans le trésor de Rackham le Rouge.
Oui, voilà,
néanmoins, ouais, réfléchissez bien.
J'allais répondre oui, vous me dites réfléchissez bien.
Ouais, donc vous me répondez
donc je vous réponds non.
Vous avez...
Mais oui, elle n'est pas tombée dans le piège, Stéphane. On peut l'applaudir. Bravo, Clémentine. C'est faux. Sans aucune aide de l'animateur de ce
jeu.
J'ai
bien réfléchi.
Il contenait un hydravion. Un hydravion dans un sous-marin de reconnaissance qui s'appelle le Marcel Besson MB-411. On n'a plus refait ça depuis. Question numéro 5, elle va vous aider.
Bien aidé.
Effectivement. Mais vous allez voir, cette question va vous intéresser puisqu'on parle horlogerie. La Leroy 01. Stéphane, mon anniversaire est encore loin, mais il faut s'y préparer en amont. Avec tout ce que vous allez vendre dans la vente aux enchères de vos meubles, vous pourriez peut-être m'offrir ça. La Leroy 01 est une montre goussée, véritable bijou d'horlogerie, faisant partie de l'orfèvrerie de luxe. Mais elle a une particularité supplémentaire qui fait qu'elle mérite de figurer officiellement dans le quiz historiquement vôtre. Pourquoi ? Trois propositions. C'est la première et la seule montre à gousset étanche de l'histoire. C'est une montre à gousset qui a été surnommée la montre la plus compliquée du monde. Ou c'est une montre à gousset qui a été conçue pour et par une femme.
Deux.
Trois.
Ou c'est la
pour
montre...
et par une femme, Stéphane.
Oui.
Ça, c'est votre côté féministe.
Oui. Si c'est la montre à très grande complication, c'est la montre de Marie-Antoinette qui a été mise au point par Breguet. Si ça n'est pas la montre à très grande complication, ça pourrait être la première montre étanche.
Mais quelle était votre réponse à vous ?
Moi, j'ai répondu deux. C'est la montre à très grande complication. Sa fabrication a pris 40 ans et elle a été pensée et voulue par Breguet pour Marie-Antoinette.
Voilà beaucoup, beaucoup de bonnes réponses dans la bouche de Clémentine Portier-Kaltenbach. Ce fut la montre la plus compliquée du monde de 1900 à 1989. Il a fallu 7 ans, pas 40, mais 7 ans pour la fabriquer.
C'est faux. Ça, c'est sa copie parce qu'elle a été volée dans un musée israélien.
Vous confondez avec l'histoire de la Breguet qui a mis 40 ans de conception. On est bien avant. Là, on est en 1900.
Ça, c'est une copie
C'est une autre montre, un autre type de montre qui a été la plus compliquée. Entre 1900 et 1989, il a fallu 7 ans pour la fabriquer. Elle est en or ciselé 18 carats. Elle comprend 975 pièces. Elle donne l'heure. Le jour, le mois, l'année, les phases de la Lune, très important. Le signe du zodiaque, encore plus important. Elle donne l'heure de 125 villes du monde. Elle fait aussi thermomètre, hygromètre, baromètre, altimètre et boussole. C'est le couteau suisse de la montre.
Elle fait la vaisselle.
Elle a eu... C'était en option.
Elle pèse combien ? C'est une montre à gousset, simplement.
Une montre à gousset. Elle a eu le prix, le grand prix de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Une réplique est actuellement exposée au musée du temps de Besançon, la vraie étant évidemment à Tiron Gardet. Merci et victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre qui bat aujourd'hui au rythme de la vie parisienne. Puisqu'on réunit trois personnages qui ont mené une vie parisienne toujours à l'affût des nouvelles tendances, des nouveaux lieux à la mode. Ils pouvaient rire au nez des provinciaux en s'exclamant
« Ce n'est pas les mamas shelter ? Ah non, arrête !»
Et pourtant c'est fou Stéphane, mais au risque de vous choquer, mais non, Offenbach ne connaissait pas le mama shelter.
Vous êtes toujours aussi taquin, Mathieu. C'est très parisien d'être taquin.
Oh, merci.
Eh oui. Aujourd'hui, vous savez, nos trois personnages mènent la vie parisienne. Après Jacques Offenbach, qui l'a mise en scène dans la vie parisienne, je vous raconte celui qui fut très certainement la première star française d'envergure mondiale. Une vedette du musical et du cinéma, l'idole de nos grands-mères, mais à jamais un gamin de Paris, Maurice Chevalier.
Paris sera toujours Paris.
Ça se passait comment à l'époque, Stéphane, avec les fans d'André Dassary ? Il y avait la team Chevalier, la team Dassary, ça se foutait un peu sur la gueule au Duty Free d'Orly parfois, ou bien ?
Au lieu de divaguer, oui. Mathieu, dites-nous plutôt quelle figure incontournable de la vie parisienne actuelle vous avez choisi de votre côté.
Moi, j'ai opté pour une figure de la vie, mais surtout de la nuit parisienne. Vous l'avez vu dans des soirées chics, des concerts privés, des anniversaires de célébrités, parfois aussi un peu quand il n'a pas bobo quelque part sur la pelouse du Parc des Princes. Je vous raconte le destin d'un footballeur clivant, Neymar Junior. Ce sera intéressant d'ailleurs d'avoir l'avis de Stéphane sur ses performances dernièrement suite à son repositionnement dans l'axe en faux neuf décrochant derrière Mbappé. Vous nous direz ce que vous en pensez,
bien sûr,
Stéphane.
Bien sûr, je vous livrerai mon analyse à volonté. Mais en attendant, n'oublions pas de saluer le formidable chroniqueur David Casse-Lopez qui nous raconte les origines du plus prestigieux ordre de décoration français de la Légion d'honneur.
Et on a l'honneur ici en studio d'avoir quelqu'un qui a reçu la Légion d'honneur et qui n'est même pas au premier grade de la Légion d'honneur.
Non, je suis chevalier.
Ah, vous n'êtes pas
premier grade.
Ah, vous n'êtes pas officier.
Non.
Alors, Olivier Pouls, on revient sur une tradition parisienne, c'est le croque-monsieur.
Oui, un grand plat des bistrots parisiens, évidemment. Je vous raconterai où il est né, puis les différentes évolutions, et puis une petite recette, évidemment, de croque-monsieur traditionnel.
Enfin, c'est ça aussi, la vie parisienne. On papote, on rigole, et à la fin, les esprits s'échauffent et on se fout sur la gueule. La lutte finale, le quiz de la Discord, ce sera comme d'habitude aux alentours de 6h moins le quart. Mais pour l'heure, partons à la découverte de notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ces chansons ont marqué l'histoire de la musique et celle de Paris aussi.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré...
Anne Hidalgo.
Mais non, malgré l'obscurité, Stéphane. Et avant l'obscurité, lui, c'est en pleine lumière qu'il a brillé. Vous dites des choses odieuses. Entre musicaux et cinéma, Stéphane Bern nous raconte le seul Français plus célèbre que lui à Los Angeles, Maurice Chevalier.
Nous sommes le 20 octobre 1968. À 80 berges, comme il le dit lui-même, Maurice Chevalier donne ce soir-là son dernier concert devant un public au comble de l'émotion. À la fin de sa prestation, le chanteur parvient difficilement à calmer les acclamations et les applaudissements nourris. Tenant son canotier à la main, il se penche vers le micro et livre ces quelques mots.
Mesdames, messieurs, vous venez d'assister à la dernière série de récitals que je ferai sur aucune scène du monde. Ça devait se faire dans la ville où j'ai débuté en 1900 et où, 68 ans après, j'ai le bonheur d'avoir une conclusion scénique aussi merveilleuse que ces 21 jours.
Rien qu'à prononcer ce nom, les fans internationaux imaginent Paris et sa tour Eiffel, le faste et les danseuses des Folies Bergères et du Casino de Paris, où le chanteur s'est souvent produit. Pourtant, rien ne prédestinait Maurice Chevalier à cette vie de paillettes. Il est né le 12 septembre 1888 à Ménilmontant, un quartier populaire de Paris. Enfant, il connaît la misère noire et est obligé de travailler dès l'âge de 10 ans pour aider sa mère Joséphine. Mais sa tête est ailleurs, il rêve de projecteurs et de gloire. À force de toquer à la porte des cirques, il réussit à se faire prendre à l'essai, sans salaire, dans un trio acrobatique. Un jour, après un saut périlleux, il retombe mal et on le ramasse évanoui en sang. Mauvaise idée. Maurice Chevalier ne sera pas acrobate. Pourquoi pas chanteur alors ? Au début du XXe siècle, la mode est à la chanson comique. Ça tombe bien. Maurice Chevalier n'a certes pas une voix fabuleuse, mais il est très drôle. Le chanteur enchaîne les salles dans toute la France avant d'obtenir à 21 ans le premier rôle dans la grande revue des Folies Bergères. Le public est élégant, les hommes fument le cigare, les bijoux des dames scintillent. Maurice Chevalier est le seul chanteur au milieu de numéros importants venus de tous les coins du monde. Sa chanson d'entrée parodie une pièce d'Henri Bataille, « L'enfant de l'amour ». « Je suis, depuis que j'ai vu le jour, l'enfant de l'amour ». En chantant, Maurice Chevalier se contorsionne, ce qui d'habitude ne manque jamais de faire rire les spectateurs. Mais ce soir-là, rien de pareil ne se produit. Les visages restent figés, certains même ennuyés. Pour se mettre au niveau de ce public exigeant, Maurice Chevalier va travailler d'arrache-pied, peaufiner son humour et prendre de leçons de claquettes. Plus tard, il adoptera sa célèbre tenue de scène à laquelle il reste à jamais associé, costume et cadotier négligemment posés sur ses cheveux parfaitement plaqués. Maurice Chevalier aime ce métier d'artiste de revue qui lui permet de travailler à Paris dans une ambiance de luxe et de jolies femmes. Avec ses yeux bleus, son sourire ravageur et sa gouaille parisienne, il enchaîne les conquêtes. Il est l'amant d'une des vedettes les plus prestigieuses de la chanson française d'avant-guerre, Miss Tinguette, oui, celle qui a de belles gambettes, c'est vrai. Ils sont engagés ensemble par une salle de music hall qui vient d'être créée, le Casino de Paris. Chaque soir, la salle est comble et bientôt, Maurice Chevalier rejoint en solo les bouffes parisiens pour jouer une opérette Dédé, dont l'un des refrains « Dans la vie, faut pas s'en faire » est aujourd'hui un vrai classique.
Dans la vie, faut pas s'en faire.
Maurice Chevalier n'a effectivement pas de souci à se faire. Le tout Paris se bouscule pour l'écouter. Dans sa loge, il accueille Sacha Guitry, la poétesse Anna de Noailles, qui l'entraîne au célèbre Bœuf sur le toit, le cabaret fréquenté par l'intelligentsia parisienne, de Jean Cocteau à Pablo Picasso. On y fait de bons mots, on écoute du jazz et le champagne coule à flot. À la fin des années 20, à l'heure de la naissance du cinéma parlant, Maurice Chevalier part pour Hollywood. Avant son départ, des dîners sont donnés en son honneur et les Parisiens se ruent pour le voir en spectacle une dernière fois. Le jour de son départ, la gare Saint-Lazare est noire de monde et les flashs crépitent direction Le Havre pour prendre le bateau, puis New York et la Cité des Anges. Dès son arrivée, le chanteur séduit les Américains. Il signe un contrat avec les studios Paramount et enchaîne une dizaine de films dont le plus connu reste La Veuve Joyeuse, tourné sous la direction du réalisateur Ernst Lubitsch, maître incontesté de la comédie. Maurice Chevalier devient l'un des rares Français connus aux États-Unis. Il est le Frenchie qui parle anglais avec l'accent gouailleur d'un titi parisien. Walt Disney, qui a encadré sa photo dans son bureau, dit de lui que serait la France et le reste du monde sans Chevalier pour les égayer. C'est notre docteur Soleil. Décidément, le succès lui tend ses bras, même s'il connaît un passage difficile pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'occupation allemande, Maurice Chevalier continue de travailler, comme le font beaucoup d'autres artistes d'ailleurs. Il sort à cette époque des chansons qui prêtent à confusion, dont « Ça sent si bon la France ».
Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France.
À la Libération, il est dans la ligne de mire du comité d'épuration qui recense les artistes ayant collaboré avec l'occupant nazi. Défendu par d'autres artistes dont l'actrice Marlène Dietrich et le poète Louis Aragon, Maurice Chevalier revient sur le devant de la scène et son succès ne se démentira plus. En 1956, lorsqu'il se produit à l'Alhambra à Paris, il esquisse des pas qui, dit-on, seraient à l'origine du fameux moonwalk de Michael Jackson. Sa notoriété est telle qu'au milieu des années 60, la reine Elisabeth d'Angleterre, en personne, ainsi que le général de Gaulle, font partie de ses admirateurs. À 80 ans, Maurice Chevalier se produit alors au Théâtre des Champs-Élysées pour une dernière série de concerts. Le public se lève lorsqu'il entre. La salle l'ovationne pendant 10 bonnes minutes. Enfin, il parvient à prononcer quelques mots. « Je vais faire l'impossible pour mériter votre gentillesse, mais j'ai une trouille terrible. » Et Chevalier se lance dans la marche de Ménilmontant. Ménilmuche, comme il disait lui-même, avec sa gouaille parisienne. Le public est aux anges, puis avec émotion qui serre la gorge, avec des sanglots étouffés, il chante « Au revoir ».
« Je voudrais lui dire au revoir ».
Maurice Chevalier dira « Au revoir » le 1er janvier 1972.
Plein d'espoir.
Le jour de son enterrement, plusieurs milliers de personnes ont fait le déplacement pour suivre par haut-parleur la retransmission de la cérémonie funèbre. Le chanteur est inhumé dans son smoking de scène bleu nuit, son canotier posé sur sa poitrine, comme une dernière élégance pour dire adieu à la vie parisienne.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Maurice Chevalier, nous sommes avec un écrivain pour qui il n'a aucun secret. Bonjour Bernard Longeon.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Bernard Longeon, vous écrivez dans votre livre « Maurice Chevalier, le chéri de ces dames » paru aux éditions du moment que plusieurs fois il a disparu au fond de l'abîme, chaque fois il en est remonté pour briller de plus belle. C'était un personnage torturé, Maurice Chevalier ?
Ouais, alors en fait, lorsqu'il avait rencontré Fréhel, la grande Fréhel, dans les années 1910-1912, qu'il avait entraîné, je dirais, dans les profondeurs, dans les orgies d'alcool et de drogue, il était tombé au plus bas, effectivement, à ce moment-là. Et c'est en fait la guerre en 1914 qui lui a permis de surmonter cela. Il n'était pas vraiment torturé, mais... il a eu plusieurs fois des descentes aux enfers, fait une grande tentative de suicide, parce qu'en fait, il avait besoin du public. Le public était sa raison de vivre.
Il avait pourtant tout pour être heureux. En tant qu'artiste, le succès, l'argent, les femmes, il n'y a pas eu 32 creux que ça dans sa carrière. Il a toujours rebondi. Qu'est-ce qui pouvait le rendre malheureux? Il était peut-être un petit fond dépressif, Maurice Chevalier?
Oui, un peu, mais vous savez, quand on est sur la scène pendant 70 ans, on a forcément des hauts et des bas. Il y a eu la période de la guerre, comme vous savez, où c'était pas effectivement tout rose. Il a été accusé de tous les maux. Oui, il avait tout, mais il n'avait pas le public tout le temps. Le grand fantasme de ce type d'artiste, c'est de mourir sur scène, en fait.
Maurice Chevalier voulait être célèbre. Il l'a été en France, et je le disais aussi, l'un des seuls Français célèbres à l'époque aux États-Unis. Qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui, après 70 ans de carrière au compteur?
Alors, vous savez qu'en fait... Maurice Chevalier était l'artiste de tous les défis. Pendant toute sa carrière, il a été à la fois un peu ringardisé, mais en même temps, il était toujours de son temps. C'est vraiment le chanteur du « en même temps », on peut dire.
Au fond, c'est le Français le plus connu aux États-Unis. Comment vous expliquez son succès là-bas? Il a quand même son étoile sur le Walk of Fame. C'est pas commun hein, pour un Français.
Il y en a très peu qui l'ont eu, effectivement. Il y en a très peu. Mais en fait, il avait un style. Vous savez qu'il était avec son canotier et son smoking. C'était vraiment le chic français, le chic Frenchy. Il représentait vraiment le Paris des années folles, les petites femmes de Paris, la belle époque. Et c'est son accent de titi parisien qui plaisait énormément aux Américains.
Avant la chanson, Maurice Chevalier s'intéresse au cirque, milieu quand même particulier. Il voulait faire le clown?
Non, oui. Il n'était pas du tout dans la clownerie, il était plutôt dans les acrobaties. Il voulait faire l'acrobate et puis bon, il a eu cet accident, il s'est arrêté. C'est là qu'il s'est lancé dans la chanson. Il a démarré en 1900, donc il avait 12 ans. Il a démarré au Café des Trois Lions. Et puis voilà, quelques années plus tard, il lance la mode du One Man Show en fait. Ça c'est fabuleux, parce qu'à l'époque, tout le monde chantait dans des revues. Vous savez, les fantaisistes, les chanteurs, les danseurs, les danseuses. Et lui a été le premier à faire un récital de A à Z tout seul sur scène.
C'est avant tout un type drôle plutôt qu'un chanteur. Ça explique qu'il ait eu une grande influence chez les humoristes comme Thierry Luron qui l'imitait et l'admirait, non?
Oui, il était très drôle sur scène, effectivement. Et c'était quelqu'un qui était toujours optimiste. D'ailleurs, dans la vie, il ne faut pas s'en faire. C'était son gimmick à lui. Et il a conquis le monde grâce à ça. Oui, donc, il était vraiment classé dans la catégorie des fantaisistes. Il faisait rire le public. Il faisait des imitations de Mayol, de Dranem à l'époque. Et il agrémentait toujours ses passages de petites excentricités, des numéros de claquettes. Voilà, il faisait des imitations des personnages de l'époque. Oui, c'était un comique, c'est sûr.
Un mot quand même sur la période de l'occupation, on a besoin de vos lumières là-dessus, puisque on écoutait le récit de Stéphane, péténiste, collabo, communiste, résistant, il semble réhabilité après la libération, mais est-ce qu'on sait vraiment comment il s'est positionné, Maurice Chevalier, durant la Seconde Guerre mondiale?
Oui, parce qu'effectivement, quand j'ai écrit mon livre, L'Algérie de ces dames, j'ai eu accès à une correspondance, notamment de Pierre Dac et de Louis Aragon, qui permettent de recadrer effectivement tout ce qu'on a écrit comme petite bêtise à l'époque. En fait, communiste, non, il a jamais été communiste. Bon, je dirais qu'au début de la guerre, au début de l'occupation, en juin 40, comme 80% des Français, il était pétainiste. Alors on l'a accusé de collaboration parce qu'il a chanté à Radio Paris. Vous savez, depuis Londres, Pierre Dac chantait Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Voilà, donc Radio Paris était devenue allemande. Et puis il a également tourné pour la Continentale, qui était la firme de cinéma créée par Goebbels en 1940.
Alors aujourd'hui, Maurice Chevalier reste une icône parisienne dont on parle quand même relativement peu dans l'Hexagone. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir sa mémoire? Il y a toujours des fan clubs à part vous.
En fait, il va y avoir, là je vous annonce un scoop, mais il va y avoir un film sur Maurice Chevalier, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, on va démarrer le scénario bientôt. Ils ont racheté les droits de mon livre, et donc pour pouvoir faire un grand film là-dessus, donc une fiction si vous voulez, autour de Maurice Chevalier.
Bah donc voilà, on peut continuer à faire vivre son œuvre. Merci beaucoup Bernard Longeon d'avoir retracé avec nous le parcours de ce titi parisien. Je rappelle donc votre livre, Maurice Chevalier, le chéri de ces dames, aux éditions du Moment. Je signale que votre prochain livre, Manitas, le lion aux griffes d'argent, paraîtra dans quelques semaines aux éditions Atelier B.
Merci. Absolument. À vous.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui mènent une vie parisienne. Après Jacques Offenbach et Maurice Chevalier, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'un joueur de foot qui lui aussi a décidé de mener une belle vie parisienne.
Tout en habitant à Bougival, dans l'ancienne baraque de Depardieu. Cet après-midi, Stéphane, je vous parle d'un fêtard hors norme. Le Jean-Michel Blanquer brésilien, le footballeur star du PSG, Neymar Junior, qui est, je le sais Stéphane, votre joueur de foot préféré.
Avec Eddie Mitchell, oui.
Avec Eddie, bien sûr. Neymar, c'est évidemment un des meilleurs footballeurs au monde, surtout quand il décroche devant Di Maria. Oui Stéphane, vous avez raison de le souligner. Mais c'est surtout le meilleur ratio salaire temps joué de tous les temps. Blessé à peu près 6 mois sur 12 pour un salaire stratosphérique inchangé, je peux vous dire qu'à Paris, Neymar vit sa meilleure vie. Il est, comme on dit chez lui, pepuzinho. Et il en profite, le salaud. Ah, vous connaissez ce type qui vous dit parfois « Moi, je sors pas ce soir. Ce soir, petit bouillon de poule, de normil et dodo. » Eh bien, c'est une phrase que ne prononcera jamais Neymar, que vous entendrez plutôt dire David.
« Vagne à fête, vagne à faire champagne et putes. »
Soit, viens faire la fête, il y aura du champagne et des amis à moi. Oui, depuis deux saisons, vous avez plus de chances de croiser Neymar en Prada en soirée qu'en crampon au Parc des Princes. Quelle était loin pourtant la vie parisienne quand bébé Neymar vient au monde le 5 février 92. Neymar da Silva Santos Junior, né à... Ah, il naît où d' ailleurs, David? Vous pouvez peut-être me le dire. Moji das Cruz
de Cruz. Moji, c'est pas très...
C'est pas très brésilien.
Ouais, je pense que ça doit être local.
Petite ville brésilienne située à une quarantaine de kilomètres de Sao Paulo. À 4 ans, il manque de mourir dans un tragique accident de voiture, mais s'en sort miraculeusement. Côté éducation, ce sera le strict minimum, car son père, Neymar Senior, donc ex-joueur de foot professionnel lui-même, décide que son fils sera le plus grand, le meilleur, le nouveau Pelé. À défaut d'être un bon père, il devient donc un bon agent. Le petit Neymar Junior apprend à jouer avant même d'apprendre à marcher, dit la légende, ce qui entre nous quand même est un peu con, car techniquement, c'est pas possible. En 2003, la famille déménage à Santos, où il y a Stéphane, un grand club. Ah oui. Puis, à 13 ans, direction l'Europe pour un stage au Real de Madrid. Il y fait forte impression, mais choisit de revenir finir sa formation au Brésil, au légendaire Santos FC. C'est là qu'il passe pro. À 17 ans, il a déjà marqué 136 buts et touche un salaire de 6 700 € par mois, ce qui, comparativement à son salaire actuel, est l'équivalent de notre agent de poche quand on avait 7 ans. Papa Neymar est sur un nuage, son fiston est élu meilleur joueur sud-américain en 2011 et 2012. Tout le monde veut le recruter, ok, mais...
On est payé combien ?
Papounet fait monter les enchères et c'est le FC Barcelone qui dégaine alors le plus gros chèque en 2013. 57 millions d'euros, soit une fois et demi plus que le transfert de Stéphane Dertel à Europe 1 en 2019.
Oh, si seulement.
Revenu annuel net, 7 millions d'euros. Non, pas quel enculé, Stéphane. Vous savez, je n'aime pas quand vous êtes vulgaire. Avec ce que vous nous avez écouté, en plus. Non, d'autant que Neymar... d'autant que Neymar est un fervent chrétien. C'est important. Il donne chaque mois, figurez-vous, 10% de son salaire à une église baptiste évangéliste. Et il arbore aussi assez souvent un joli bandeau 100% Jésus. Notre abbé Pierre du Petit Pont déclare même « La vie n'a de sens que lorsque notre idéal le plus élevé est de servir le Christ. » Un Christ qui pourtant, parfois, lui joue des tours. Après quelques beaux succès, champion d'Espagne, Ligue des Champions en 2014, Neymar se blesse en quart de finale du Mondial. Dans la foulée, sans lui, donc, le Brésil se prend un humiliant 7-1 contre l'Allemagne. Blessé, affaibli, Neymar se tourne alors vers le Seigneur. Non, je déconne, il se tourne vers Martin Solveig. Et oui, quand il est blessé, Neymar fait la fête. Il devient la Martine brésilienne de la presse people. Neymar à la plage, Neymar sur un yacht, Neymar en boîte avec Paris Hilton, Neymar en train de boire une vodka carambar à côté de Martin Solveig qui mixe, Neymar bras-dessus avec Justin Bieber à Los Angeles, Neymar à Saint-Tropez. Le FC Barcelone commence à se lasser des frasques extrasportives de son poulain. En 2017, le prodige brésilien rejoint donc le Paris Saint-Germain, où il s'engage pour 5 ans avec une clause libératoire d'un montant de 222 millions d'euros. Non, Stéphane, pas l'enfoiré de sa mère, là. Non, contrairement à vos allégations scandaleuses, sa maman n'a jamais été travailleuse du sexe. Mais je vous comprends, vous êtes choqués par ces montants, on l'est tous. Mais ce sont les tarifs du foot business. Il fallait plus vous investir en EPS, Stéphane. C'est là que Neymar rachète la baraque de Depardieu à Bougival. 800 mètres carrés, 5 étages, piscine intérieure, 14 000 euros par mois de loyer. Mais vivre là où Depardieu a plus ou moins partousé avec Rocco Siffredi, comme on l'a vu dans une précédente chronique, ça n'a pas de prix. Et puis, question thune, Neymar est large, vous l'avez compris, d'autant qu'il ne lâche rien. Le bénévolat connaît pas. Quand il doit signer des cartes pour l'entreprise Panini, il donne son prix, 70 euros. Là, les types de Panini se disent « Ah bah c'est sympa, il est cool quand même, Neymar. » Jusqu'à ce qu'il réalise, en relisant mieux le contrat, que c'est 70 euros par autographe. Et il n'y a pas de petit profit avec Neymar, même quand on gagne plus de 10 millions par an. Côté rentabilité, d'ailleurs, un supporter de l'OM n'hésiterait pas à faire remarquer que Neymar n'est pas le meilleur coup du PSG.
Allô, maman, bobo.
Des bobos, il en a à peu près tout le temps. Fracture du métatarse en 2018, lésion du pied, puis blessure à la cuisse en 2019. Durant le mercato estival cette année-là, on pourra voir quelques banderoles « Neymar, casse-toi » fleurir dans les tribunes du parc. Heureusement, à défaut de le voir briller sur le terrain, on peut toujours le voir briller dans des pubs. Gillette, Nike, Panasonic, Volkswagen, Red Bull, PokerStar, Neymar bouffe à tous les râteliers, raison pour laquelle certainement il a aussi fait de la pub pour des bains de bouche. Côté vie privée, vous vous en doutez, c'est aussi mouvementé. À 19 ans, suite à un petit accidentigne où il devient papa d'un petit David Lucas, séparé de la mère de son fils, qui elle en avait 17 au moment de la grossesse, il démarre une relation avec Bruna Marquezine, une doctorante en sciences physiques qu'il a rencontrée lors d'une visite à Oxford. Bah non, je déconne, une actrice mannequin influenceuse instagrammeuse qu'il a rencontrée au carnaval de Rio, évidemment, en 2012, et dont il se séparera aussi, car Ainsi va la vie des sportifs de haut niveau. Et sinon, j'ai une question, Stéphane, vous avez fait quoi pour votre dernier anniversaire, vous? Vous vous souvenez?
J'étais rien du tout, je suis resté à la maison. Oui.
Tranquille, tranquille, tranquille ou bilou. Ouais, quoi. Ouais. Alors lui, c'est un peu différent. Chaque année, Neymar, lui, il a pour tradition de fêter son anniversaire comme s'il s'agissait du jubilé de la reine. Il paye 1 million d'euros à un DJ d'envergure mondiale, puis invite tous ses amis en première classe à le rejoindre pour une soirée mémorable en présence des plus grandes stars du moment. C'est simple, on n'y pense pas assez. Hélas, vous l'avez compris, la vie nocturne de Neymar fait grincer certaines dents. Longtemps, il s'en est foutu, jusqu'à ce 17 juin 2019 où soudain, Mimi Mati s'en est mêlé. Gala titrait alors « Mimi Mati tacle sévèrement Neymar ». Le pamphlet est glaçant, digne du J'accuse de Zola, mais en mieux écrit. Ce que je trouve étonnant, c'est que le salaire d'une comédienne comme moi qui commence à être âgée, ça choque, alors qu'un footballeur qui n'a pas joué comme Neymar, le transfert qui coûte une blinde, son salaire alors qu'il a mis deux fois le pied sur le terrain depuis qu'il a parce qu'il a toujours bobo quelque part, là ça ne choque personne. Et pam, Neymar, le prodige du dribble, taclé par Joséphine Ange Gardien, à terre, une fois de plus. Comment Neymar réagira-t-il à l'attaque frontale de Mimi Mati? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Vie Parisienne. Peut-être, je vous spoil, n'a-t-il même pas pris la peine de répondre parce qu'il ne regarde pas Joséphine Ange Gardien. Peut-être c'est une éventualité. Voilà David, trois mots pour finir.
Capot de voiture, bosquet, prépuce,
pas mieux. Merci David pour cette chute. J'avais ce son. J'ai jamais trouvé un endroit où le mettre parce que ça s'est jamais présenté. Et je me suis dit là finalement, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Oui. Neymar. Oui. Vous aimez beaucoup Neymar, j'ai l'impression, Stéphane.
Ben, j'aimais bien. Et puis vous avec votre portrait, avec le portrait que vous en avez fait. Ouais, c'est décevant ce garçon, c'est pas Mbappé, vous voyez.
C'est peut-être pas les mêmes valeurs.
Pas les mêmes valeurs, mais oui, mais le Brésil, vous savez.
Ne jetons pas l'opprobre sur tout un
pas. Non, c'est pas... Parce que je veux dire, mais il fait chaud, il fait bon. Moi-même qui suis allé danser au carnaval de Rio.
Vous avez, qu'est-ce que vous dites?
Je suis allé danser, j'ai défilé sur un char, bien sûr.
Mais il y a des images.
Il y a une très bonne exposition actuellement au musée du costume de Moulins. Je vous dis, où on voit justement qui est consacré au Brésil et à cette année où j'ai défilé sur un char en jaune poussin.
Vous me relancez ma rage dedans avec vos bêtises.
Oh, je suis vraiment désolé, vraiment. Je vous prie de m'excuser, Mathieu Noël. Je ne le referai plus.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Pour retrouver Stéphane, le plus parisien des Belges, qui s'est dit, tiens, une émission sur la vie parisienne, est-ce que ce serait pas le bon moment pour refourguer habilement ma chronique sur le croque-monsieur que j'avais faite en 2019? Olivier, vous nous parlez de l'origine du croque-monsieur.
Oui, mais une chronique enrichie. Ah, vous verrez que le croque-monsieur a découvert autre chose.
J'ai rajouté de la béchamel.
J'ai pris une couche de fromage. Ouais.
On va voir ça, mais tout de suite, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines de quelque chose qui fait, non pas notre quotidien, mais le quotidien de Stéphane, la Légion d'honneur.
Oui, il y a un truc simple et élégant quand même dans le titre Légion d'honneur. Je trouve c'est sans froufrou, c'est sans ornement. C'est pas comme l'Ordre national du mérite ou les palmes académiques, ça ronfle un peu. Vous voyez, ça. Légion d'honneur, ça fait direct, solennel et grand. Moi, je trouve ça super bien choisi pour désigner la distinction suprême. C'est un peu comme les décorations militaires aux États-Unis. Vous savez, la plus haute de toutes, on appelle ça la médaille de l'honneur. C'est que le nom le plus simple pour la médaille la plus prestigieuse. Alors aux États-Unis, ils ont un truc pas si mal, c'est qu'ils ont des noms différents pour les médailles militaires et les médailles civiles, ce qui permet d'affirmer clairement que risquer sa vie sur un champ de bataille, c'est pas tout à fait le même type de service à la nation que de faire rayonner à l'étranger l'art de l'éclair au café. Mais en France, la décoration civile suprême et la décoration militaire suprême, donc elle s'appelle pareil, la Légion d'honneur. C'est comme ça. Bon, je pense que vous savez tous que c'est Napoléon qui a mis en place la Légion d'honneur. Et on se dit comme ça que ça a dû être facile. Mais non, pas tout à fait, parce que à cette époque, il n'y avait plus de décoration du tout, ni civile, ni militaire. La Révolution, en fait, les gens de la Révolution, ils avaient dit « fuck les décorations », parce que les décorations, c'est une façon détournée de créer une classe de citoyens mieux que les autres. Et en plus, c'est un truc d'officier de l'armée, et les officiers, c'est tous des nobles, donc fuck. Mais Napoléon, il s'est dit quand même que ce serait bien d'avoir une façon de motiver les gens à faire des trucs bien. Et il a soutenu donc la création d'une décoration qui soit un peu nouvelle, c'est-à-dire une décoration qui, un, fasse super gaffe à être fondée uniquement sur le mérite, et deux, ne soit décernée pas seulement aux militaires, mais aussi aux civils. Bon, à l'époque, Napoléon, il n'était pas encore empereur, donc il pouvait pas juste décider comme ça exactement, mais le corps législatif a fini par voter oui. Et le 29 mai 1802, la Légion d'honneur a été créée. Et truc assez ouf quand même, elle a été conservée par tous les régimes qui ont suivi, à commencer par Louis XVIII à la Restauration de 1814. Mais ça se comprend aussi parce que les gens qui avaient la Légion d'honneur, c'était l'élite. Et entamer un régime en se mettant à dos toute l'élite en supprimant la Légion d'honneur, c'était pas un super move. Et donc il a gardé la Légion d'honneur. Bon, Napoléon, il avait sans doute une petite cette idée derrière la tête avec sa Légion d'honneur, puisque quelques années plus tard, quand il était empereur, il a créé une sorte de, quand même de nouvelle noblesse, hein, qu'on appelait la noblesse d'Empire, et qui avait des aspects héréditaires. Et pour être noble d'Empire, il fallait commencer par avoir eu la Légion d'honneur. Ah. Donc c'était un petit peu un chemin vers la Légion d'honneur.
C'est une sorte de méritocratie quand même aussi.
Oui, mais après, quand vous le passez à votre fils, qu'est-ce qu'il
c'est
a fait?
Il
a
un, c'est vrai.
Voilà. Alors maintenant, quelques fun facts hein, sur la Légion d'honneur.
Oui.
Ça s'adresse en particulier à Stéphane, qui est le seul ici à avoir la Légion d'honneur, même si Askip, Olivier Pouls, est en lice grâce à ses contributions sur les champs de bataille du Croque-Monsieur. Bon, déjà, il y a 6 niveaux dans la Légion d'honneur.
Ah ouais.
Hein, est-ce que vous pouvez les citer, Stéphane, les 6 niveaux de la Légion d'honneur?
La légionnalier, chevalier,
officier, ça c'est le premier stade.
Chevalier, officier...
Grand commandeur.
Commandeur, tout simplement. Commandeur.
Ouais.
Grand officier.
Ouais.
Grand croix.
Ouais.
Et au-dessus de grand croix, il y a grand chancelier.
Enfin, bah, il y a le grand,
Le grand maître,
c'est
le président de la République qui est le bienfaiteur.
Ouais.
Et le chancelier, c'est
le chancelier. Donc, il y en a 7, je connais pas le chancelier.
Non, le chancelier, il est le seul à voir. C'est lui qui est le général Puga, vit au palais de la Légion d'honneur.
Stéphane, pour quelqu'un qui s'en fout et qui ne la voulait pas, vous êtes quand même très, très bien renseigné sur la hiérarchie des... On sent que vous attendez la prochaine.
Il y a d'autres ordres où je suis mieux.
Et donc, Stéphane, vous êtes chevalier, le rang de base. Donc, il y a encore un petit peu de marge pour la progression. Deuxième fun fact, il y a un économiste français qui a refusé la Légion d'honneur récemment. Qui est-ce?
Jean Tirole.
Non, lui, il l'a accepté.
Piketty,
qui a dit « Je refuse cette nomination car je ne pense pas que ce soit le rôle d'un gouvernement de décider ce qui est honorable. » Et il a ajouté « L'État ferait bien de se consacrer à la relance de la croissance en France et en Europe plutôt que de distribuer des distinctions. » Bam, dans ta face. Troisième fun fact, on peut perdre sa Légion d'honneur.
Oui. Quand on fait des trucs condamné par la justice.
Quand on fait des trucs pas bien, voilà.
Pétain.
Bachar al-Assad, par exemple, a perdu la sienne en 2018, ou plutôt il allait la perdre, et juste avant de la perdre, il l'a renvoyée en disant en gros qu'il en avait rien à battre de cette décoration nulle.
Mais il faut savoir que les chefs d'État étrangers, ils les reçoivent d'office.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qu'on appelle des échanges.
Des échanges de trucs sympas.
Ah, pas bon, certainement, oui.
Donc voilà, donc il a perdu sa Légion d'honneur parce qu'il a massacré le peuple syrien. Donc petite note mentale, Stéphane, si vous voulez pas perdre votre Légion d'honneur, ne massacrez pas le peuple français.
Non,
voilà.
Non.
Dernière chose, la Légion d'honneur, on ne la demande pas.
Oui. Non.
Mais il y a un truc pas mal, c'est le recours à l'initiative citoyenne. N'importe qui peut demander à l'État de donner la Légion d'honneur à quelqu'un. Pour ça, faut juste faire un dossier et recevoir 50 signatures en faveur de la personne. Ensuite, le dossier est examiné et vous pouvez avoir la Légion d'honneur comme ça, quoi. Voilà.
Je m'occupe de vous.
Ah oui, j'en rêve.
Alors ça, on trouve 50 auditeurs.
Hein, voilà. C'est ça, s'il y a des auditeurs
historiquement vôtres. Oui, c'est aussi facile que trouver 500 parrainages pour l'élection présidentielle.
Mais alors, faut voir, c'est quand même de plus en plus dur d'avoir la Légion d'honneur, puisque depuis Emmanuel Macron a décidé de diviser par 2 le nombre de Légions d'honneur civiles qui seraient données. Donc, beaucoup plus dur qu'avant 2017.
Plus dur si vous êtes un garçon.
Ah oui,
oui,
il y a aussi la parité qu'on cherche à atteindre.
Il y a la parité,
oui, mais c'est bien, bah oui, c'est très bien. Eh bien, écoutez, merci David.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre, c'est aussi l'amour de la bonne bouffe avec vous, Olivier Pouls. L'histoire des recettes qui font notre patrimoine gastronomique glorieux aujourd'hui, le croque-monsieur.
Et oui, puisqu'on est dans le sujet parisien, c'est quand même un des grands plats traditionnels des bistrots parisiens. Et la naissance du croque-monsieur, si on se penche un petit peu sur les écrits, elle est attribuée en 1910 à un patron de bistrot qui s'appelait le Bel Âge et qui était situé non loin du boulevard des Capucines et qui aurait eu l'idée, parce qu'il vendait énormément de jambon beurre à l'époque, de remplacer à un moment le pain baguette par un pain de mie. Il était probablement un peu en panne de baguette et il a eu l'idée de toaster le pain et ainsi est né le croque-monsieur. Vous vous souvenez peut-être de l'anecdote amusante sur la manière dont on l'a nommé. Pourquoi le croque-monsieur s'appelle le croque-monsieur?
Parce qu'on disait que lui, il était cannibale ou il mangeait des gens, non?
Ouais, parce que le patron de ce bistrot qui s'appelait Michel Lunarca avait une réputation un peu bizarre. On prétendait qu'il pourrait éventuellement s'adonner aux joies du cannibalisme. Et donc, quand un client a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cette préparation? Il aurait crié, du monsieur. Donc, c'est l'idée peut-être du croque-monsieur. Mais en fait, si on creuse un petit peu plus, on se rend compte que dès la fin du 19e siècle, en réalité, donc un peu plus tôt, on trouve déjà mention d'une préparation faite à base de pain à toast, de beurre, de jambon, de fromage et de poivre. Le tout passé à la poêle, donc probablement le croque-monsieur, qui n'était pas très réputé ou très très répandu dans les bistrots, existait déjà avant, plutôt dans la cuisine bourgeoise. Alors ce qui va faire évoluer le croque-monsieur, c'est deux choses. Tout d'abord, l'introduction de la sauce mornay. Et si vous vous rappelez, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, de la mornay. Ouais. C'est une sauce béchamel à base de fromage. Et ça permet de faire un croque-monsieur avec notamment de la sauce mornay par-dessus qu'on va gratiner dans le four. Parce que là aussi, il y a différentes manières de cuire le croque-monsieur. Et puis, une autre invention qui a quand même changé un peu la donne sur le croque-monsieur, c'est le fameux appareil.
Bah oui, l'appareil.
Ah ouais, l'appareil à croque-monsieur. On peut changer les plaques, on peut faire des gaufres maintenant, etc. Et alors cet appareil, lui, par contre, il est né aux États-Unis et le brevet a été déposé en 1925. C'est un certain Charles Champion qui a breveté cet appareil qui servait aux États-Unis à griller des toasts, qui était probablement un peu l'équivalent aussi du croque-monsieur. Alors le croque-monsieur, en ce qui me concerne, si on veut en tout cas le faire de manière traditionnelle et parisienne, c'est du pain de mie, évidemment, du jambon blanc, du fromage. Moi, je prends du comté ou de l'emmental. On beurre, évidemment, les tartines sur les deux faces. On va mettre une tranche de fromage, une tranche de jambon, à nouveau une tranche de fromage. On referme. Et ensuite, on le poêle et on ne le cuit pas.
Non, non, le poêle. Ouais,
ouais. Parce que ça va donner un croustillant absolument...
Mais on le poêle dans du gras.
Irrésistible. Ben on remet une toute petite noisette de beurre, mais comme il y a déjà du beurre, puisqu'on a beurré sur les deux faces,
on va faire
caraméliser le dessus du pain qui devient extrêmement croustillant, moelleux évidemment dedans, donc on poêle doucement pour faire fondre tranquillement le fromage. Et là, on a vraiment un croque-monsieur à la texture, je trouve, parfaite.
Et les Portugais ont inventé un truc.
La francesinha.
Francesinha, c'est des croque-monsieur les uns sur les autres avec des œufs au milieu, du fromage qui dégouline, de la béchamel. C'est... Ça monte comme ça dans la assiette. C'est magique.
Et le croque-madame a lui été inventé un peu plus tard, puisque c'est un croque-monsieur sur lequel on vient poser un œuf. Et alors, c'est l'œuf qui pourrait symboliser un peu le chapeau de la dame, d'où le nom croque-madame. Voilà, exactement. Pas très compliqué à réaliser, là non plus.
Encore une bien belle histoire.
Et après, il y a eu le croque-hawaïen aussi. Ça existe, mais ça, franchement, c'est pas mon truc.
Comme la pizza avec des ananas.
Alors, en fait, on met une rondelle d'ananas.
Ça n'a aucun sens. En revanche,
mais ça existe.
Il y a une recette de croque-monsieur qui est très bonne que je conseille, c'est poire et fourme d'Ambert ou poire et bleu.
On peut s'amuser à jouer avec les ingrédients. Et je sais qu'il y en a un autre que vous aimez particulièrement, c'est celui avec la truffe.
Je ne connais pas ce produit. Merci. Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et puis on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Et pour terminer, bien, mes questions aussi vont être croustillantes, pour ne pas dire gratinées, dans la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, David Cassé-Lopez, je sais que depuis qu'on se fréquente, vous êtes devenu un spécialiste international du Gotha. Rania Al-Yassin, dit la reine Rania de Jordanie, 51 ans, c'est tout de même la plus jeune reine du monde actuel. C'est vrai ou c'est faux?
Je dirais que... Mais reine, c'est-à-dire femme du roi ou reine...
Oui.
Ouais. Je dirais non.
C'est une bonne réponse, mais c'est qui la plus jeune alors?
Vous le savez Stéphane, sans dire vos notes?
Je le savais. Jetsun Pena, la très jeune et très en beauté reine du Bhoutan. On la surnomme la quête de l'Himalaya. Elle est mariée au roi Vangchuk et elle est diplômée en relations internationales, en psychologie, en histoire de l'art. Elle avait 30 ans lorsque son mari était couronné roi. Voilà.
Pas mal.
Mathieu, une question pour vous. Historiquement, vous savez quel surnom on donne à l'Angleterre?
La perfide Albion.
La perfide Albion, oui, parce qu'Albion vient de blanc. C'est une référence directe à la couleur de peau de nos amis d'outre-Manche. C'est vrai ou c'est faux?
Non, c'est faux. C'est faux.
Ça vient d'où?
Non, mais c'est pas ça en tout cas.
Oui. Ça vient d'Alba, blanc. Mais c'est mais la c'est couleur des côtes.
Oui,
des côtes anglaises.
Voilà, oui.
Et des falaises du sud des îles.
Ah oui.
Olivier, qui a reçu le Grand Prix de l'humour en 2021? De l'humour en politique, hein, bien sûr. Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot ou Gérard Larcher?
Roselyne Bachelot ou Gérard Larcher. On aurait tendance à penser que Roselyne Bachelot, oui, qui a toujours un mot assez amusant, pourrait en être tout à fait l'auteur, mais j'imagine
mais
que c'est
involontaire.
Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est parfois une petite gaffounette qui. Et puis il y a Gérard Larcher, un outsider évidemment, mais qui a aussi un certain esprit. Bon, je sais, honnêtement, je n'en sais rien, donc au hasard, je vais dire Marlène Schiappa.
Oh, bonne réponse.
Comme quoi, ah oui, voilà. C'était volontaire.
Quand elle a proposé une loi luttant contre la polygamie, elle a déclaré :« On ne doit pas s'empêcher les plans à trois. » François Hollande a eu également un prix spécial pour avoir dit Michel Barnier un côté prince charmant pour les maisons de retraite. Alors vous avez tous les trois donné la bonne réponse et donc tous les trois vous allez concourir à la question finale. On se souvient tous de la mort de Félix Faure.
Oui, l'Ectase.
Oui, oui. C'est Émile Loubet qui lui a succédé, mais il lui a succédé combien de jours après l'épectase du premier?
8 mois.
8 mois.
Ah, moi j'ai mis 14 jours.
14 jours et vous?
Ah, bah non, moi j'ai mis 4 jours, je pensais que c'était un truc genre.
Bah vous gagnez. Vous gagnez.
Il a 4 jours.
2 jours. C'est 2 jours.
2 jours. Vous êtes pourtant, il est connu, Loubet. Il est resté 2 jours seulement.
Non.
Il a été désigné.
Combien de jours après l'épectase?
Ah oui, 2 jours après, il a été désigné.
2 jours après, voilà. Émile Loubet était président un certain temps. Voilà. C'est Mathieu Noël qui remporte sur un malentendu.
Sur un malentendu, c'est une victoire volée, c'est une victoire à la Forrest Gump. Mais malgré tout, j'en suis très fier.
Oui, vous pouvez.
Historiquement, votre spécial vie parisienne, c'est fini. Dimanche, c'est un spécial vie stéphanoise qui vous attend. Trois personnages très fortement connectés à la ville de Saint-Etienne. On parlera bassin minier, usine de chaux. Une idée que je lance comme ça, Stéphane?
Oui, Mathieu, arrêtez de lancer des idées comme ça. Laissez faire les professionnels. On a un rédacteur en chef qui est très bien payé, qui est très heureux.
Très bien payé, vous êtes sûr? Il n'a pas l'air d'y faire non de la tête. Hein. Il fait non de tête, hein, Benjamin, en régie. Stéphane, vous avez raison. Chacun sa place. Alors, à dimanche.
À dimanche, Mathieu.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.